bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. Nous allons, comme à l'accoutumée, vous présenter l'émission 100% foot. Alors aujourd'hui, je suis évidemment en compagnie de Patrick,
oui, mon homologue,
et un grand retour, et non pas une première, c'est avec un grand plaisir que nous recevons Alain qui est chez lui.
Voilà. Je tiens à remercier tout le monde.
Voilà. On précise qu'il y aurait dû avoir Thierry.
Absolument.
Mais
oui.
Pour des raisons techniques, on est obligé de modifier l'émission. Et Thierry, à l'heure où nous parlons, il est le représentant de Fréquence Mistral à Monaco pour assister au match de Ligue des Champions, Monaco-Paris Saint-Germain.
C'est ce que j'avais cru comprendre. Voilà. D'ailleurs, on attend justement son reportage, en l'occurrence.
Et je précise que, contrairement à certaines mauvaises langues prétendent, il n'est pas allé à Monaco pour opérer sa future villa. Hein. Il est allé pour regarder le match de foot. Voilà.
Chaque chose en son temps.
Bien parlé, Patrick.
Voilà. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, nous allons commencer à parler donc, du football provençal. Et évidemment, commençons par les féminines de l'Olympique de Marseille, qui ont disputé une rencontre, évidemment, avec un résultat probant face à Strasbourg. Leur dernier match, en l'occurrence, qui s'est disputé il y a quelques jours.
Samedi dernier.
Donc 4 à 2, la victoire de l'Olympique de Marseille face à Strasbourg là-bas à la Méno, ce qui ne repositionne pas nos féminines qui sont déjà très bien classées, enfin en l'occurrence sur leur cahier des charges, sont 9e de ce championnat, évidemment, le tiennent toujours la route.
Voilà, oui, et c'est sûr que c'est, bon, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, les féminines de l'OM sont dans le championnat de deuxième moitié de tableau. Il y a les gros, les lyonnaises, une des deux, trois meilleures équipes d'Europe, et puis deux équipes parisiennes, Paris FC et Paris Saint-Germain.
Oui, c'est que Fleury.
Et Fleury et Nantes qui sont les cinq équipes de devant qui courent en tête. Et les autres, ben, c'est le championnat pour le maintien.
Voilà, une autre compétition.
Et donc, on a battu Strasbourg à Strasbourg, qui est un de nos concurrents, qui est une très bonne chose. Ajouter aux défaites le Saint-Étienne et de Lens, qui sont des équipes qui sont les deux dernières du championnat, ça te met en position tranquille de maintien.
Absolument, voilà. Qui confortent leur position. Voilà. Bon, nonobstant le match suivant, qui ne devrait tarder pour la 16e journée, l'OM, les féminines, recevront évidemment à Turquan. Lyon, les Olympiennes lyonnaises, samedi 21 prochain.
Les filles qui nous ont éliminées en Coupe de France et en Coupe de la Ligue, qui sont largement au-dessus. Hein.
Voilà. Oh, que oui. Voilà donc pour
bravo au football féminin de l'Olympique de Marseille. Là, ma choucroute est bien passée.
Alain, toujours.
Un signe pour l'équipe première de l'Olympique de Marseille en Ligue 1.
Voilà. Toujours judicieux dans tes commentaires.
Bien sûr.
Voilà. Donc, également, Aubagne en national qui a disputé pour la 20e journée, me semble-t-il, qui a battu Bourg-Perona 1-0. Oui. Bon, ça, nous l'avons vu. Évidemment, que le prochain match à venir, Aubagne recevra Quevilly vendredi 20. Voilà, donc pour Aubagne, statu quo, le 7e du championnat. D'ailleurs, un but, je ne vais pas le souligner, mais cette fois, ils ne sont pas passés à côté de leur match. Ils ont su concrétiser les rares occasions dont ils ont disposé.
Voilà, c'était un match heurté, mais compliqué, mais ils ont gagné à la maison. Et là, s'ils arrivent à battre Quevilly, le maintien est assuré. Quoi.
Oh oui.
Après, on ne peut pas...
D'autant plus que cette 7e position est solide dans le championnat national. Oui. Bon, évidemment que les places accessibles pour la pour la Ligue 2 sont inaccessibles, c'est le cas de le dire. Donc, le maintien est toujours d'actualité.
Mais bon, pour Aubagne, c'est une belle saison.
Une belle saison.
Alain, tu pourras noter quelques matchs. En tout cas, je sais que tu as vu pas mal d'images. Oui. Et tu peux souligner, évidemment, comme tu le dis si bien, qu'Aubagne ne démérite pas et est toujours en position intéressante.
Oui, pour avoir vu le match chez nos confrères de BFM, c'est vrai que quand tu regardes la Ligue des Champions quelques jours après, ça fait un peu drôle, mais bon. Mais ça a été un match très courageux. C'est une équipe bien organisée, solidaire, combative, et la victoire était méritée. Et Donc c'est bien, tu es 7-8e. Bon, même si Fleury, qui a un match en retard ce soir, venait à gagner, passerait devant, mais enfin, tu te tiens à un point, deux points. Enfin, tu es tranquille au milieu de tableau, tu es loin devant les équipes relégables.
Je fais un petit coucou à la Légion étrangère à Aubagne aussi, c'est très important.
Okay. Absolument. Ben écoute, on n'aura peut-être pas besoin de leur participation au niveau d'Aubagne-Herbel, mais en tout cas, leur présence les rassure.
Non, c'est juste un coucou.
Voilà. Un coucou.
Voilà. Un coucou partagé.
Merci.
Voilà pour notre football régional, entre guillemets. On va pouvoir passer, je dirais, avant de parler de politique sportive, je dirais économique peut-être, mais sportive en tout cas. Ouais. On va rapidement faire le... Non, pas le bilan à cette 21e journée, à cette 22e journée, mais très très rapidement. Les scores de cette journée-là, donc ça a commencé, bon, évidemment, sur un Rennes qui bat le Paris Saint-Germain 3-1.
Incroyable.
Tu fais bien de le souligner.
Je commande, c'est incroyable quand
même. Mais tout à fait, j'étais surpris également.
Ça préconise un bon match contre Monaco pour le Paris Saint-Germain. Un petit coucou à Thierry.
Ouais. Voilà, de tout cas. En parlant de Monaco, ils ont suivi, ils ont battu Nantes 3-1. Bon, chronologiquement, on va en parler très longuement. L'OM a fait match nul 2-2 face à Strasbourg. On les a reçus très bien pourtant, mais enfin, ça n'a pas suffi. Lille a fait match nul face à Brest 1-1. La prochaine confrontation entre l'OM et Brest sera très très bientôt.
Tonnerre de Brest.
Oh, que oui. Le Paris FC, ça n'est pris 5 face à Lens, ce qui n'arrange pas notre position au classement, qui était déjà très fort compromise. Voilà, le Havre a battu Toulouse 2-1. Toulouse, un prochain, je dirais, adversaire qu'on va rencontrer à deux reprises.
Double confrontation pour le Cassoulet.
Absolument. J'espère que ça ne va pas péter dans la tribune. Voilà, Lorient a battu Angers 2-0. Metz a été défait par Auxerre 1-3. Et Lyon, ça ne nous arrange pas non plus au niveau des haricots, a battu Nice 2-0.
Voilà. Oui, Toulouse, c'est un peu inquiétant parce que, bon, alors ils ont perdu ces choses qui arrivent. Le Havre, c'est une équipe qui n'est pas facile. Hein. Ils sont mal placés. Mais
pas
quand
facile
tu vois,
à manœuvrer. Tout
pas facile à manœuvrer. Mais ça peut vouloir dire aussi que Toulouse, ils vont tout mettre sur le quart de finale de Coupe de France.
J'en ai même peur.
Tout à fait, Patrick.
Ils vont
tout miser sur la Coupe de France.
Oui, parce que je pense qu'ils sont, quand ils voient la situation du club et quand ils entendent ce qui se dit, médias, réseaux sociaux, télé, journaux, tu as l'impression que tu vas affronter les mourants en phase terminale. Oui. Voilà. Et donc, les mecs, ils ont peut-être un peu lâché. Et ce qui est inquiétant pour nous, parce que si on ne se ressaisit pas, ce n'est pas une équipe facile, Toulouse.
Oh,
après,
donc,
c'est costaud.
Petit coucou aux malades de la Timone, puisque tu as fait... voilà. Ils ne sont pas tous mourants, ils sont là, ils nous écoutent.
Ouais, voilà, ils nous écoutent.
Quoi qu'il y en ait un peu de partout. Ouais. Mais bon, il est vrai que... Par rapport à Toulouse, donc nous allons les rencontrer en quart de finale de Coupe de France mercredi 4 mars. Oui. Et ensuite, nous allons jouer chez eux
le 7 mars.
Le 7 mars, donc pour
on
la 25e journée.
C'est nous qu'on les reçoit ou on va là-bas ?
On va là-bas pour la 25e journée. Donc,
Je pense qu'ils mettront à peu près l'équipe type parce qu'à domicile, ils ne peuvent pas trop se...
Oui, mais la coupe étant avant, ils viendront au Vélodrome en se disant, on va essayer de faire un coup.
Non, mais
et parce que les gens ont l'impression, Toulouse, c'est au milieu du tableau. Toulouse, c'est solide, c'est chiant à jouer. Et la Coupe de France, c'est sur un match.
C'est toi qui le dis, chiant. Bon, voilà, avec le Cassoulet.
Oui.
Voilà. Alors, un peu d'humour sur la fréquence.
Restons sur l'actualité justement de ce championnat. Donc la prochaine journée étant la 23e, nous irons à Brest. Nous en avons parlé rapidement, vendredi 20. Mais ensuite, nous verrons bien où nous en sommes au niveau climat du club. En l'occurrence, on va en dire un mot.
Attention, voilà. Brest, ils sont en forme en ce moment. Ils reviennent.
Et
comme par hasard.
Évidemment, pour la 24e journée. Et là, le patatras, je l'appréhende fort et je ne l'espère point. L'OM, nous recevons Lyon. Dimanche le 1er. Voilà. Donc, c'est vrai que cet enchaînement de matchs, qu'est-ce qui va en découler ? Évidemment, nous en sommes là dans l'actualité de cette heure, hein, puisqu'il y a eu pas mal de bouleversements dans cette semaine, qui a été évidemment, je parlais de politico-économique, mais entre, non pas de désistement, ou de... Alors, on va parler d'abord par De Zerbi.
Du match, peut-être vite parler du match de Strasbourg.
De Strasbourg, oui, voilà. Donc,
et après, on va faire le point sur le reste.
Très bien.
Parce que, comme tu as justement dit, Franck,
oui.
C'est, tu vas à Brest, tu reçois Lyon, et tu as les deux matchs contre Toulouse en coupe et en championnat.
Quel enchaînement de matchs.
Si ça se passe mal, ça peut... Parce que moi, j'étais... Alors, en plus, je ne te dis pas les boules, j'ai payé ma place pour aller voir.
Oui, Patrick.
J'étais aux Ultras, on était suspendus.
Je vais te laisser t'exprimer là-dessus.
Pour des histoires de feux d'artifice, on était suspendus.
Donc, match
et
de
donc,
Strasbourg,
j'ai payé la place et j'ai vu le match. L'ambiance m'a particulièrement impressionné, mais on va y revenir.
Ouais.
C'est-à-dire que pour les joueurs, ça ne doit pas être commode de rentrer dans un stade hostile.
D'autant plus qu'ils n'étaient pas prévenus avant cela.
Oui, ils s'en doutaient.
Il y a eu la grève des supporters
et
ta partie de virage qui était fermée.
Oui.
Ce qui t'a évidemment
amené à aller ailleurs.
Impliqué, à aller à gagner, n'ayant pas peur des mots.
Pour revenir au match,
alors,
quand le match s'est joué, que l'équipe a mené à marquer, jouait pas mal. Le stade était chaud, quoi.
Oui.
Mais entrer, te faire... alors après, tu le mérites, hein, parce que sur les résultats, tu mérites de te faire secouer en rentrant. Mais c'est quand même un problème. Donc, je vais d'abord parler du match. On parlera après du reste.
D'accord.
Mais sur le match, tu as vu une équipe malade. Voilà.
Oui.
C'est-à-dire que c'est une équipe... Tu as eu de la... Tu as bien joué. Tu as des joueurs qui ont fait leur match. Tu as marqué un but, tu as mené 0 à la mi-temps, tu as marqué en seconde mi-temps, tu as mené 2-0. Non, tu as marqué en fin de mi-temps, tu as mené 2-0.
Oui, c'est ça, oui.
Et tant que tu menais 2-0, tu contrôlais ton match et Strasbourg, qui est pourtant une bonne équipe, n'était pas extraordinaire. Enfin, tu mettais un peu en danger, mais Rouli a fait 2-3 jolies parades.
Oui.
Et puis tu as pris un but à la con. Fait un but, voilà, c'est des choses qui arrivent. Et là, tout le monde en tribune se regardait en disant on va en prendre un.
Effectivement, et on l'a pris, c'était palpable plus que cela.
Oui,
c'était non pas des joueurs tremblotants qui animaient notre équipe, mais il est évident qu'on a vu Strasbourg se sortir de la première mi-temps où ils n'étaient pas très à l'aise.
Oui.
On n'a pas su justement enfoncer le clou quand on avait la possibilité de dominer. Et en seconde période, les Strasbourgeois ont été beaucoup plus incisifs.
Mais je pense que les Strasbourgeois, ils étaient venus en se disant on va faire un coup. Ils ont pris un but à la 13e, je crois que c'est que Greenwood marque,
oui.
Un très joli but d'ailleurs.
Ah, il faut le souligner.
Très belle passe de Guiri, hein. Très belle passe décisive de
belle
Guiri.
Belle complicité sur
et
cette action.
Super lob, il lobe le gardien,
ouais.
Il est seul devant, il lobe le gardien. Donc ça leur a mis un coup. Pendant toute la première mi-temps, globalement, tu avais le contrôle.
Avec la synchronisation du virage qui est rentré, c'est beau.
Oui, qui est rentré, qui s'est mis encouragé.
Je vais bien le dire, Alain, car il est vrai qu'il a fallu un quart d'heure et les joueurs n'avaient peut-être pas compris sur le premier quart d'heure.
Oui, il devait être au courant quand même, parce
qu'il
avait été annoncé.
Ça se comprend assez rapidement.
Oui, mais disons que le stade a joué son rôle, et là, tu vois que le rôle, il est important.
Oui, plus au niveau communication, je dirais, de banderole.
Voilà, les banderoles, c'était bon, on y reviendra. Mais... le public qui t'encourage, qui t'applaudit, qui allez vas-y, qui pousse son équipe, c'est le rôle des supporters.
Bien sûr.
Et quand on a pris le but à la 74,
et là
voilà, là tu as commencé à trembler. Et les joueurs, tu as vu, moi j'ai vu des trucs qui me, alors je sais plus, je l'ai entendu, c'était sur l'équipe, je crois et tout, où quelqu'un a fait remarquer que à la 90. Il y a un ballon qui traîne, Pavard, il met un grand coup de botte, il dégage en touche. Mmh. Et il était là, on aurait dit qu'il a gagné la Coupe du Monde. Quoi. Je veux dire, tu vois, il était et tout. Bon, ça va, tu as mis un coup de botte, tu as dégagé en touche. Quoi. Mmh. Voilà. Et tu avais l'impression que les mecs, ils tremblaient.
Et
le pénalty, il est concédé sur un mec qui n'est pas en confiance, qui fait une faute stupide.
Ouais.
Voilà.
Pourtant, un de nos joueurs cadres, qui malheureusement...
Emerson, qui a fait un bon match, qui est un des joueurs les plus solides de la saison. Emerson Palmieri, qui est bon, l'arrière gauche, et qui fait une faute stupide.
En l'occurrence, oui.
Qui fait pas normalement, quoi.
D'ailleurs, tu parles de Palmieri, je comprends pas qu'il soit pas sélectionné en équipe italienne. Mm-hmm. J'arrive pas à comprendre.
Oui, voilà. Ben parce que...
C'est une parenthèse. Hein.
Oui, oui.
Il est vrai que la squadre, je dirais, a besoin de renfort et de soutien.
Oui, non, mais Palmieri, il aurait sa place, je pense, dans l'équipe.
Bah, il était au championnat d'Europe en 2021, ouais. Quand ils ont été champions d'Europe. Il était le remplaçant de Di Marco, le joueur de l'Inter Milan. Et pas aujourd'hui, le mec qui remplace Di Marco, je le trouve pas fabuleux, quoi. Donc, mais bon, tant mieux pour nous, comme ça, il se repose pendant les périodes de trêve internationale.
Je ne sais pas s'il va rester à l'Olympique de Marseille d'ici la fin.
Ah, voilà. Il a un contrat.
C'est l'actualité et dans ce sens. Oui. Qui va rester, il y a des prêts, il y a des contrats, etc.
L'entraîneur, le nouvel entraîneur, voilà.
Oui,
bon, on va pouvoir y revenir. Voilà. Enfin,
mais pour revenir au match, on a un problème récurrent, parce que c'est la quatrième ou cinquième fois de la saison qu'on se fait égaliser dans les arrêts de jeu.
N'oublions pas le match face au Racing, déjà. Hein. Oui, c'est un remake.
Paris FC.
Paris FC.
Au Vélodrome, contre Toulouse, d'ailleurs, et contre Angers, où on se fait revenir dans les... Et on a cette manie, même à Angers, où on avait gagné 5-2, les deux buts qu'on prend, c'est dans les arrêts de jeu des demi-temps, où tu as l'impression que les mecs sont endormis. Quoi. Ouais. Voilà, parce que tu rends des actions, tu dis, mais il n'y a personne qui... Et moi, je me faisais la remarque avec les collègues au stade. Alors, Pancho à Bardonado, c'est pas... Moi, je l'ai connu joueur, je l'ai vu débuter et tout. Je l'ai suivi, c'est un mec que j'aime beaucoup. C'était pas un grand joueur.
Il n'aurait pas
été aimé par certains parce que sa relance était parfois un peu approximative. Par contre,
rôle de gagneur.
Quand il fallait marquer un attaquant, il ne le lâchait pas.
Mais Pancho, il mouillait le maillot.
Il mouillait le maillot, mais le maillot, les mecs le mouillent. Mais un attaquant, il ne doit pas être à 4 mètres de toi.
On peut le dire ainsi.
Tu ne marques pas un mec à 3 mètres.
Donc, on se démobilise. L'actualité.
Et tu prends un but. Et le pire, c'est que moi, tout autour, tous les gens que j'entendais, alors ce n'était pas mes habituels, puisqu'on n'était pas dans notre virage, mais il y avait des copains, mais il y avait des gens que je ne connaissais pas. Et quand il y en a un qui a commencé à dire « on va me prendre un, ils vont égaliser », tout le monde s'est regardé, personne ne disait rien, mais tout le monde le sentait venir.
Ouais.
Et tu as l'impression que c'est écrit, et ça, c'est le symptôme d'une équipe malade.
Autant les joueurs que les spectateurs.
Parce que quand tu vois les joueurs d'expérience que tu as, et Emerson, il a 31 ans, il a été champion d'Europe avec l'Italie, il a gagné la Ligue des champions avec Chelsea, il a gagné l'Europa League avec Chelsea. C'est un joueur de grande expérience.
Mais une maladresse coupable.
Il fait une faute stupide à la 95 dans la surface qui coûte un péno. Il y est, le péno, il n'y a rien à dire. Hein. Et tu concèdes l'égalisation là-dessus. Quoi. Et c'est pas la première fois. On rappelait que contre Liverpool, on perd 3-0 au Vélodrome en Ligue des Champions, mais le troisième but, il est à la 90 plus 3, à la 93.
Bon. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème physique? J'ai l'impression, parce qu'on ne tient pas tous les matchs en entier. J'ai un doute. Hein.
C'est un fait.
C'est un fait, mais moi, je pense que même quand tu es bouilli, parce que on a vu tous plein de matchs qui ont joué aux prolongations, 120 minutes, ça commence à faire long. Les mecs s'arrachent. Quoi. Oui. C'est la tête qui
Est-ce
commande.
Que c'est pas le mental qui
c'est
fait défaut?
Pour moi, c'est le mental qui manque. D'ailleurs, c'est ce
Mais
qu'a
c'est
dit.
C'est relié au physique. Bien
c'est
bien
ce qu'a dit Pancho en.
Il y en a aucun qui a des crampes en fin de match.
Non, il y a pas de mecs qui ont des crampes. Et la faute d'Emerson, qui est une faute stupide, ils viennent se jeter dans les pieds du mec et le découpent. Voilà. Et
il y a pénalty.
Il n'y a rien à dire.
Là, je parlerai c'est un truc de fragilité émotionnelle.
Oui, mentale. Mentale, émotionnelle. Tu n'arrives pas à gérer. Et là où tu dois, sur tes joueurs expérimentés, garder le ballon, casser le rythme. Ouais. Tu sais pas le faire.
Ben,
tu le fais pas.
On perd tous ces points.
Mais ça, comme tu dis, Patrick, c'est le rôle de l'entraîneur de gérer tout ça. S'ils n'écoutent pas l'entraîneur, je veux dire.
Alors, l'entraîneur peut tout faire, mais c'est quand même papa et une maman. Ils peuvent prévenir leurs enfants. C'est difficile de faire la parenté. Mais du coup, c'est pas pour cela que les enfants vont faire ce qu'ils doivent faire.
Voilà, les consignes de l'entraîneur ne sont pas respectées, je veux dire.
C'était Pancho, entre guillemets, qui était sur le banc de tous.
Mais Pancho, tu peux pas. Après, Pancho, le problème que tu peux avoir, c'est qu'il est l'intérimaire, annoncé intérimaire.
Oui, tout à fait.
Donc,
oui.
Est-ce que les mecs le suivent? Est-ce que des joueurs qui ont 30 balais, qui sont internationaux dans leur pays, est-ce qu'ils le regardent, est-ce qu'ils l'écoutent?
Oui, tout à fait.
Voilà.
Oui.
C'est un problème. On sait que si le mec c'est Zidane ou c'est, ou c'est Ancelotti ou qui te parle, tu es au garde-à-vous. C'est un mec qui a été un bon joueur, mais un joueur moyen. Peut-être que tu n'écoutes pas.
Oui, Patrick, mais était-il nécessaire de vouloir vraiment suivre un entraîneur, même s'il était intérimaire?
De toute façon,
c'est déjà prendre conscience de dans quelle situation nous nous trouvons.
Tu vois la situation compliquée de l'équipe, arrache-toi pour tenir le 2-1.
Oui, semble-t-il.
Voilà.
Ouais.
Voilà.
Mais bon, je pense que les joueurs étaient du côté de Pancho. Parce
oui,
Pancho
il aime
a
bien.
Toujours
oui.
dit, il a toujours dit, Pancho, que les joueurs étaient avec lui, je veux dire.
Oui,
je suis assez d'accord. Je ne pense pas qu'ils aient trahi De Zerbi non plus.
Je pense
que c'est un ensemble de faits qui ont fait que, malheureusement, après cette défaite.
Attention, tu parles trahi De Zerbi. Moi, je pense qu'il y a des clans au niveau de l'équipe. Voilà. Il y a les clans.
Probablement.
Les clans Benatia, il y a les clans De Zerbi, et il y avait les clans Longoria.
Voilà, y avait-il opposition entre les trois?
Moi, je pense qu'il y a un problème comme ça dans l'équipe.
Oui, mais parce que.
On le saura plus tard.
Quand on dit ce qu'on appelle. Qui entre guillemets est plus ou moins vrai, mais carré l'entraîneur, c'est en fait tu t'en fous, tu recules.
Tu sais bien, Patrick, qu'on a affaire à des mercenaires. Quand
oui, mais
ils
c'est.
Ils aiment le maillot.
C'est ce qui s'est passé à Nice, par exemple.
Voilà.
À partir du moment où il y a eu les incidents, que les mecs sont venus
dans
t'agresser.
Dans tous les clubs.
Voilà, l'équipe, les mecs, ils ont lâché. Quoi. Voilà.
Mais là, on ne peut pas interpréter chez nous
apparenté
sous la Nice.
Je
par
pense
exemple,
pas, parce que là où il y a un problème, tu disais, Alain, mouille le maillot, mais les mecs, ils mouillent le maillot. Simplement, au moment où il faut garder le calme, où il faut rester, et où tu te dis. J'ai quand même Pavard, champion du monde. J'ai Naïef Aguerd, qui est le capitaine en seconde de l'équipe du Maroc.
C'est là que le bas blesse.
Demi-finaliste de la Coupe du Monde, finaliste de la Coupe d'Afrique. Emerson, champion d'Europe, puis qui a joué Ligue des Champions avec Chelsea et tout, vainqueur de la Ligue des Champions. J'ai une défense costaud. Comment ça se fait que mes mecs ils lâchent? J'ai Weah, international américain à droite. Voilà.
Après, Patrick, moi j'en reviens au physique. Parce que 3 matchs par semaine, je ne pense pas qu'ils aient le niveau de tenir 3 matchs.
Ben
là, ils en sont à 2.
Là, on les a plus.
Et voilà.
Et j'espère qu'on va rester à 2 jusqu'au bout de la saison.
Oui, moi aussi.
Et vu le nombre de matchs qui restent, là, il faut aller
parce
au bout.
Parce que si on reste à 2, ça voudrait dire qu'on continue en Coupe de France.
Voilà.
Tout à fait,
voilà.
Patrick.
Mais après, le problème...
Non, le problème, Patrick, je reviens à ce que tu disais, c'est la justesse individuelle, technique et... collective qui fait défaut quand justement si le ballon justement on n'arrive pas à mettre le pied dessus et faire
et là dessus il y a un truc, c'est que quand tu es une équipe d'expérience et tu as des joueurs d'expérience parce qu'au milieu tu as Hoiberg par exemple et tout qui est le capitaine du Danemark qui a joué la finale de la Ligue des Champions avec Tottenham et qui est un joueur de capitaine du Danemark, c'est un joueur d'expérience.
Mais il faut revoir
tu mets le pied sur le ballon, tu casses le rythme, tu gagnes du temps, quand il y a une faute, tu restes par terre, tu grattes et tu casses le rythme de l'autre. Et donc tu fais des trucs comme ça, c'est pas normal que les joueurs de cette expérience et de ce niveau ils paniquent, parce que moi je pense que la défense, c'est facile de tomber sur la défense comme sur le gardien de but, mais c'est aussi que ton milieu et tes attaquants protègent pas la défense.
Une petite pensée à Delange aussi, parce qu'il a morflé et je pense pas qu'il mérite d'en prendre 5 là-bas à Paris.
Oui, il peut en prendre 7 ou 8, mais enfin, bon, parce qu'il y a 4 poteaux.
Je m'arrête à 5.
Mais non, mais les buts.
Non, mais il y en a peut-être qu'un, c'est-à-dire
le cinquième
que
tu peux reprocher les autres.
Non, mais moi, je ne reproche pas à Delange d'en avoir pris 5.
Ah non.
C'est sur ce match.
Mais il n'y a aucun reproche à lui faire.
C'est personnellement. C'est
non, tout à fait.
Non, mais je pense que l'attitude de Pancho de remettre Rulli, d'abord, c'est pour le relancer.
C'est pour le relancer.
Et puis, c'est quand même un Argentin qui est champion du monde, qui a joué en Argentine, et les ambiances chaudes, il sait ce que c'est. Il a peut-être pensé que Delange, peu habitué, c'était les joueurs qui viennent de Hollande, qui viennent des. Il jouait je ne me rappelle plus dans quel club hollandais.
Et puis donner sa place
peut-être
au gardien titulaire, tout
simplement. S'attendant à une ambiance rude, il était un peu. Il a préféré mettre Rulli plus habitué et qui, à l'heure, Rulli a fait un bon match.
Oui, mais de le remettre dans le bain, justement, après son absence forcée
à Paris. Au PSG,
voilà.
Mais même s'il est moins bien ces derniers temps, il est plus expérimenté. Après,
c'est vrai, c'est difficile de faire des reproches individuels.
Oui. Après, le problème, c'est que globalement, l'équipe a manqué offensivement. Tu aurais pu marquer un troisième but qui tuait le match, tu ne l'as pas mis.
C'est ça, on n'arrive
pas à
faire.
Quand tu as pris un but, tu t'es mis à trembler et tu n'arrivais plus à garder le ballon.
Absolument.
Et ça m'a rappelé le match au Paris FC il y a 15 jours, 3 semaines.
Avec un score similaire.
Où tu mènes 2-0 à la 84e. Dès que tu en prends un sur une faute de défense énorme, d'ailleurs, tu te mets à trembler et tu fais n'importe quoi. Et ça, c'est le signe d'une équipe malade. Et c'est pas parce que tu aurais des gamins de 19-20 ans, tu peux dire qu'ils sont inexpérimentés.
Oui, mais c'est un scénario mais semblable.
C'est pas le cas. C'est pas le cas.
Qu'on a subi face à Strasbourg. Hein.
Voilà, tu as des joueurs, tu as des Aubameyang, tu as des mecs comme ça, ça a du métier, ça a de l'expérience, c'est costaud. Et c'est une équipe. Et moi, je ne comprends le départ de l'entraîneur de Zerbi, que moi, personnellement, j'aimais bien comme homme.
Je regrette, absolument d'accord avec toi. Là.
Même si, dans le jeu, des fois, tu dis, il y a ça qui me gonfle, c'est pas grave, c'est normal. Mais je regrette parce que, malheureusement, quand ton entraîneur te dit en conférence de presse, je comprends pas, je sais pas quelle équipe je vais avoir quand je m'assois sur le banc.
Il a été trop honnête.
Et les mêmes qui le massacrent parce qu'il a été honnête, sont les premiers à l'avoir défoncé, et qui te dit qu'il a perdu la main, tu ne peux pas faire grand-chose d'autre que de le,
après,
que
Patrick,
de le changer. Hein.
Patrick, tu sais bien que c'est les résultats du terrain qui comptent.
Oui, c'est les résultats.
À Brighton, c'était pareil pour lui. Sur Solo, il a fait monter l'équipe. Après, il n'y a que le terrain qui compte, les supporters, ils regardent que ça, c'est logique. Hein.
Ah non, mais la bascule de la saison, c'est Bruges.
Ouais.
C'est pas un Liverpool où tu perds contre plus fort que toi, même si tu as été mauvais, tu n'as pas fait un bon match. Mais tu perds, c'est Liverpool.
Non, moi c'est à Madrid. Hein. À Madrid, tu méritais pas de perdre.
Madrid, mais à Madrid, tu peux
là,
dire.
Là, on méritait pas de perdre.
C'est un penalty en bois, c'est l'Atalante, c'est le Real,
aussi.
Voilà. Mais il y a des matchs, mais. La bascule, elle se fait à Bruges.
Tu perds tout sans avoir joué.
Il n'a pas eu, sur ces matchs-là, de la chance. Voilà, il fallait le brin de chance pour qu'il soit parmi nous encore.
Voilà, moi, ce qui me pose question, et je m'excuse de monopoliser un peu la parole.
Non, tout à fait, Patrick, c'est bien.
Sur De Zerbi, c'est que tu regardes les conférences de presse avant le match à Bruges. Donc, il a regardé les matchs de Bruges. Moi, je les avais vus. J'avais vu quand ils ont mis 4-1 à Monaco. J'avais vu le 3-3 contre le Barça. C'est pas Liverpool. C'est pas des flambeurs, mais c'est des guerriers. Tout le monde se bat dans la. Et c'est un pressing haut, les mecs qui t'attaquent. Et donc, le discours.
Une équipe qui était à notre portée, plus
voilà,
que cela.
Voilà, le discours de Zerbi, c'est on sait qu'ils vont nous rentrer dedans d'entrée, il faut tenir. Et plus on va tenir, dès que si on arrive à la demi-heure 0-0, ils vont commencer à fatiguer, ils ne peuvent pas. Et on va essayer de les avoir en contre.
On a pris un but en
et
début de
jeu. Et tu es à 2-0 à la 11e. Voilà. Sur deux fautes de marquage où le mec il déborde, il centre, le mec il est en retrait, il est seul.
Ça c'est difficilement admissible.
Et ça c'est, tu te dis, mais l'entraîneur te l'a dit, comment tu as pu laisser les mecs jouer et ne pas protéger, les milieux ne pas descendre en fait. Et là,
on revient à la prise de conscience et l'implication de nos joueurs.
Voilà, et tu as été complètement en dessous, tu as été mauvais, et donc du coup tu te retrouves sur un coup foireux, le mec qui monte à la 97e et qui met un but de la tête, ça arrive une fois par siècle, mais c'est arrivé ce jour-là. Mais c'est de façon tu étais.
On peut dire que ça a été la carte qui a fait effondrer le château.
Tu as été éliminé là-dessus, mais c'est anecdotique. Sur le match où tu dépendais ta qualif, tu t'es pas battu. Ouais. Tu as été mangé et tu n'as pas eu de réaction, tu n'as pas marqué le but qui t'aurait qualifié et tout. Et ça, c'est ça qui a fait la bascule dans les têtes, parce que tu es éliminé, alors que tu avais 92% de chances de te qualifier, d'après les stats. Et je pense que dans la tête des joueurs, ça a fait un clash, parce que depuis, tu t'es pas remis.
Ils pensaient à la fin de la rencontre, toujours être qualifiés, et ils n'avaient pas su, justement, qu'il y avait encore du temps de jeu avec Benfica, et qu'il y avait...
Moi, je regardais le match à Canal+, il y avait le panneau à Bruges qui marquait « Félicitations au FC Bruges et à l'Olympique de Marseille pour leur qualification ».
Je félicite Bruges, quand même, c'est un geste sportif.
Ah oui, mais les mecs se sont battus, les mecs qui sont allés la chercher leur qualif. Eux, il fallait qu'ils gagnent pour se qualifier. Ils se sont battus.
Ils ont été d'autant plus méritants.
Et Benfica nous a mis une vata.
Voilà, mais c'est anecdotique. Parce que le problème, c'est comme à Paris. C'est pas de perdre au Parc des Princes qui est dramatique. C'est la manière dont
ils perdent. Voilà, c'est ça. Justement, est-ce que tu penses que l'effet papillon sur ces deux matchs, justement, ben, nous en sommes là à présent, puisqu'on parle du départ de Derby, hein, notre entraîneur.
Oui, qui est parti.
Et par la suite, donc quelques jours plus tard, donc annoncé sur les réseaux sociaux par Benassia justement son départ, mais officiellement il a été détrompé puisque ça a été refusé justement sa démission. Et là ça rebondit encore, la présence de Marc Courte à présent à l'heure où nous sommes
aujourd'hui, mardi à Marseille,
exactement, où Marc Courte est toujours là pour essayer de régler les quelques problèmes internes. Donc nous n'avons plus d'entraîneur. Et finalement, Benassia, notre directeur du football, évidemment, on a mis en stand-by son départ et on lui demande de rester jusqu'au terme de l'exercice au mois de juin.
Après, je pense que Benassia s'est mis un peu en retrait. Il a négocié avec Macourt l'arrivée de Habib Bey. Voilà,
oui, parce que le problème qu'on a, qui me pose problème, autant... j'ai été malade quand on rappelle qu'il était stagiaire au pro à l'OM et qu'à cause d'histoire avec José Anigo, on ne va pas revenir
là-dessus.
Il n'a pas signé et il est parti à Clermont-Ferrand. Il est devenu pro là-bas.
Tout à fait, Patrick.
Il a fait carrière en Italie. C'était un très bon joueur, c'était un super joueur. Autant j'aime bien, autant il est un peu dur des fois. Et il peut y avoir des conflits de personnes. Il faut aussi savoir gérer les gars, hein, parce que c'est pas facile. Mais j'ai pas du tout apprécié le côté « je m'en vais ». Et c'est d'autant plus incompréhensible qu'il dit « j'ai démissionné le lundi 9 ».
Oui.
Mais le jeudi, il rencontre Bey pour négocier un contrat.
Voilà,
pour être l'entraîneur.
C'est pas clair comme position.
Le samedi, il est au stade en tribune à côté de Longoria et de McCourt.
Et tout décontracté, apparemment.
Voilà, et voilà. Alors, il avait les boules comme tout le monde, parce que tu as le match nul. Mais, et après, donc, je comprends pas. Et après, ils te disent sur lui, et l'OM ne communique pas. Donc, je pense que ça, c'est pas très sain, très bon.
Et en plus, il annonce sa démission sur Instagram. Tout le monde a Instagram.
Oui, mais enfin, ça se sait très vite.
Oui.
Et donc, si tu veux, le problème que ça me pose
ça
à moi...
Ça reste une problématique.
C'est que quand il y a une équipe malade, un entraîneur qui est un intérimaire, annoncé intérimaire, donc peu crédible pour les joueurs, surtout qu'il n'a pas une carrière extraordinaire, c'est pas un ancien international et tout. Quand tu as ça... Tu fais attention à l'équipe, quoi. Tu fais attention que ce genre de déclaration déstabilise, parce que là, la plupart des mecs...
Alors, est-ce que les médias qui parlaient d'abandon, est-ce justifiable comme commentaire ?
Oui. Franck fait allusion au jeu de mots de la province de ce matin.
Par exemple,
c'est plus abandonado, c'est abandonado,
d'abandonner.
Mais c'est vrai, le mec, tu le sens tout seul, et il fait ce qu'il peut. Et ça doit être très compliqué de remonter les mecs. Parce que, imaginons les mecs qui viennent d'arriver. Il y a des mecs qui sont venus pour De Zerbi. Il y a des mecs qui sont venus pour Benatia.
Absolument.
C'est eux qui les ont fait venir. Comment les mecs ils vont réagir? Et le risque, c'est que les mecs qui appellent leur agent trouvent au moins un autre club. Et je m'en vais. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es plus motivé. Quand il faut mettre le pied, tu ne le mets plus.
Alors, sachant que qui est à l'origine de la plupart des transferts, donc directeur du football, comme le nomme ainsi, c'est-à-dire Benassia, et ainsi que Longoria, qui probablement, avec ses réseaux, était à l'origine de beaucoup d'arrivées, départ. Alors, à qui jeter la pierre? Après, justement, prendre ses responsabilités et continuer.
Moi, je pense que Benatia, il s'est mis d'accord avec Macourt, il a écarté un peu Longoria, ils s'entendaient plus trop apparemment, et l'accord de faire venir Bey, je pense que c'est son retour, voilà.
Mais le truc, c'est que le problème, à mon avis, de Benatia. Et je l'apprécie comme joueur, c'était un super défenseur central.
Jusqu'au mois de juin.
Le fait de faire quand tu deviens directeur sportif, tu dois dépasser un peu ton caractère.
Ben oui.
C'est-à-dire, tu es...
Il y a une fonction à assumer.
Voilà, tu es autoritaire, tu es grande de gueule, tu es assez dirigiste.
Alors, ma question, Patrick, qui c'est qui le fait venir, Benatia ? C'est Longoria ou De Zerbi ? Parce que j'ai l'impression qu'il est plus avec De Zerbi que Longoria.
Bon, a priori, c'est le patron.
C'est les deux, c'est les deux. Ah. Parce que je pense que c'est De Zerbi qui a peut-être proposé le nom.
D'accord.
Mais Longoria le connaissait parce que Longoria, c'était un scout qui faisait les recrutements. Et Benatia, avant d'être directeur sportif, il était agent de joueur, donc tu as travaillé avec.
Oui.
Et il a un gros réseau, il a un très gros réseau. Puis il est très convaincant. Hein. C'est quelqu'un qui parle aux joueurs, qui sait parler aux gars. C'était d'ailleurs quand il était joueur, il était réputé dans le. Il était capitaine du Maroc, il a été capitaine de la Juve, le mec.
Oui, tout à fait. Donc, je veux dire,
il l'a pas oublié.
Voilà, donc c'est quelqu'un qui savait parler dans le vestiaire.
Et il rigolait pas.
Et voilà, et il était plutôt, plutôt strict.
Oui.
Et donc je pense que c'est peut-être De Zerbi qui a soumis le nom, c'est forcément Longoria et McCourt qui ont accepté.
Oui.
Après, là où il y a un problème, c'est que peut-être que lui, il a été trop dirigiste. C'est-à-dire, quand tu travailles en équipe, travaille en équipe.
Alors, j'ai une question, justement, Patrick, en ce sens, n'y a-t-il pas opposition, justement, non pas de style, mais de démarche professionnelle entre Benatia et, justement, Longoria, qui ont des registres qui ne sont pas complémentaires, sur le coup. Chacun a ses réseaux de footballeurs, probablement. N'y a-t-il pas eu opposition là-dessus ?
Alors, je vais citer le dernier grand président de l'OM, Pape Diouf,
Diouf. Grand président.
Africain, sénégalais.
Et avec qui on pouvait dialoguer dans la rue.
Voilà, oui, tu pouvais le brancher, te
répondre. Non, pas avec M. Longoria, voilà, c'est un petit message.
Là, tu parles de mes aventures personnelles.
Voilà. Et Pape Diouf disait, c'est un proverbe africain qui dit, il ne peut pas y avoir deux crocodiles dans le même marigot. Comme en France, on a un proverbe qui dit « il ne peut pas y avoir deux coqs dans la même basse-cour ». Et c'est vrai que tu as deux personnalités assez dirigistes.
Voilà.
Et qu'il y a eu forcément, sauf que travailler en équipe, c'est se faire des compromis. Moi, je comprends tout à fait, même si j'adore Habib Bey, le joueur qui était le capitaine de l'OM, qui m'a enchanté à l'époque de Drogba et tout, qui était un super joueur, super mentalité. Je pense que c'est un bon entraîneur qui gicle de Rennes pour des raisons un peu sombres où il y a quand même la volonté de faire venir Francaise. Hein. Dès qu'il a été libre, c'était clair que c'est lui qui venait.
Voilà, c'était déjà acté côté Rennais.
C'était déjà acté côté Rennais, mais qui a quand même eu un conflit avec certains cadres de son vestiaire qu'il a eu un problème à gérer parce que c'est un jeune entraîneur en Ligue 1. Il a débuté à Rennes il y a un an. Est-ce que c'est lui faire un cadeau que de le mettre dans le bourbier actuel de l'OM ?
Moi, je ne pense pas.
Je suis pas persuadé
voilà,
non plus.
Voilà, moi, sinon, j'adore le mec. Entraîneur de l'OM, oui, dans un an, deux ans, trois ans. Mais peut-être laisser. Et je termine mon intervention en disant que De Zerbi, d'après Fabrizio Romano, hein, qui est le grand pape des transferts, l'italien, il a été contacté par Tottenham parce qu'ils ont viré leur entraîneur, Thomas Frank. Le Danois, il a été viré et ils lui ont proposé le poste à Tottenham. Et il l'a refusé en disant c'est trop tôt, on verra en juin. Parce que donc ils ont pris Igor Tudor comme intérimaire sur trois mois.
Et oui, j'ai vu ça.
Parce que le mec, il sort d'un échec, parce que c'est un échec, d'un truc dur à vivre, pénible. Ouais. Lui qui en plus est très tripant et qui vit les choses physiquement. Tu repars pas d'entrée sur un club en crise en Angleterre.
C'est vrai que le jeu des chaises musicales est toujours d'actualité à ce niveau-là.
Et voilà. Et moi, Bibey, c'est pas sur la qualité de l'homme. Il vient en juin, il prépare l'équipe avec le directeur sportif, il travaille, il monte un groupe. Je lui fais confiance.
Oui.
Là, il arrive, il sort de Rennes d'un échec.
Un peu trop prématuré.
Voilà, avec une ambiance. Alors, je pense que les supporters l'auraient très bien accueilli. Hein. Les supporters l'auraient très bien accueilli. Il est très populaire à Marseille. Mais est-ce que c'était un cadeau de le balancer maintenant ?
C'est assez compliqué. Il faut terminer l'exercice de cette saison. Alors, qu'on garde nos intérimaires.
Ça me rappelle un peu Jean-Louis Gasset.
Qui
repose en paix.
Quand tu as pris le pauvre, le regretté Jean-Louis Gasset il y a deux ans. Tu avais un intérim à faire après Gattuso qui était en échec.
Oui.
Et Gattuso, c'est pas un mauvais entraîneur, ça n'a pas marché.
Mais...
Et Gasset, c'est typiquement le mec qui va calmer,
voilà,
qui va modérer, qui va reprendre son vestiaire en main tranquillement.
Mais là,
voilà.
c'est
plutôt ça qu'il te faut.
Si c'est Abibey maintenant qui commence, je ne le souhaite pas,
oui.
Par des mauvais résultats,
ah oui,
ça sent la tempête.
Ouais, imagine, il commence.
Je lui souhaite de gagner les matchs.
Tu perds contre Lyon, tu te fais sortir en coupe contre Toulouse.
Mais déjà, en l'occurrence, voilà. La tempête se profile déjà. Hein.
Voilà, il est. Non, mais la différence, c'est que tu le prends. Il perd à Lyon, il perd contre Lyon au Vélodrome, ce qui peut arriver.
Et à Brest aussi. Hein.
Mais Brest, il ne saura pas.
Il ne saura pas.
Trop tôt, voilà, ça sera encore Pancho.
Ouais.
Tu perds contre Lyon, ce qui peut arriver. C'est une équipe. Moi, j'ai vu Lyon dimanche soir contre Nice. Mais un match nul, il n'y a rien à dire. Ils ont de la chance. Ils tapent le poteau, ils rentrent, l'autre, ils tapent le poteau, ils sortent.
Maintenant, autre question.
Oui, mais ça fait partie du football.
Oui.
Le fait que Benatia ne soit revenu, en tout cas, non pas sur ses dires, mais en tout cas, qu'il soit prolongé jusqu'au mois de juin. Va-t-il concrétiser justement l'avenue d'Abibey rapidement ou attendre la fin de l'exercice la saison prochaine?
Si Bey est d'accord pour venir trois mois, pourquoi ne pas tenter?
S'il vient parce que... Non, il vient
problèmes
parce que...
avec Rennes au niveau juridique, administratif,
alors,
sont terminés.
Je vais t'expliquer le problème avec Rennes.
D'accord.
Quand tu vires un mec avec que tu avais prolongé, tu lui dois des indemnités de licenciement. S'il a fait une faute grave, tu lui dois rien.
Oui.
Donc tu l'accuses d'une parce que... Rennes, ils disent, il a eu des contacts avec l'OM avant qu'il était sous contrat, parce qu'eux, ils n'ont pas contacté Franquèze, qui était sous contrat avec Nice.
D'où
parce
que eux, ils ont,
voilà. Mais pourquoi l'intérêt de Franquèze à Rennes? Je comprends
parce
pas.
Que le président de Rennes, c'est Arnaud Pouille, l'ancien président de Lens, qui était,
d'accord,
qui faisait l'équipe avec Franquèze et avec Ghisolfi, le directeur sportif, c'était le trio. Et donc, il veut reconstruire. Voilà.
Ça,
il voulait Franquèze.
Merci, Patrick.
Voilà. Mmh. Et donc, Franquèze, Nice n'a pas voulu le lâcher alors qu'il voulait démissionner. Donc, il n'est pas parti. Mmh. Mais il avait contacté, puisqu'on on en parlait à la télé, on en parlait dans l'équipe, c'était écrit noir sur blanc. Donc, eux, le font. Simplement, c'est une histoire de dédommagement de Bey et de son staff. Si tu as une faute grave, tu n'es pas obligé de payer l'indemnité.
C'est vrai que c'est pour parler un peu tendu et où sont à l'origine.
Mais c'est des histoires de... C'est comme on avait parlé du transfert d'Abdelli. C'était évident que Angers allait te le vendre à la fin du mercato. Parce qu'un joueur qui a déjà signé pour le 1er juillet dans une autre équipe, parce qu'il a le droit, au 1er janvier, tu peux signer quand tu as fait un contrat.
Et bon,
Tu te bats pour le maintien.
Vu
tu
la situation de son équipe, son ex-équipe. Quoi.
D'ailleurs, son entraîneur l'avait laissé sur le banc parce que le mec, il sait qu'il s'en va, il ne va pas risquer de se blesser, il va avoir la tête ailleurs, sachant que venant à l'OM en février, il triple le salaire, des trucs comme ça.
Il y a encore des exemples.
Voilà. Donc, tu en as plein comme ça, où un mec qui veut partir ou qui n'est plus là, comme à Nice, c'est les joueurs qui ont été insultés et molestés par les supporters, tu ne peux pas les garder. Mmh. Ils ne vont pas jouer pour le club et aller saluer le virage que les mecs, ils leur ont craché dessus, ils leur ont mis des coups.
Un climat, justement, que je n'espère pas.
Après, malheureusement, il n'y a que le terrain qui compte. Hein,
oui, il n'y a que les résultats.
Voilà.
Tu gagnes et c'est fini.
C'est triste à dire, mais bon, après, il n'y a plus le relationnel qu'on avait avant.
Oui, voilà.
Toi, tu as connu avec les Scoblar et compagnie.
Oui, c'était...
Moi, je croisais Paolo César sur la plage avec Gersino. Ça, tu le vois plus, tout ça. Il n'y a plus le lien entre le supporter et le joueur.
Et moi,
ou le dirigeant, même.
Moi, quand j'étais jeune, j'étais abonné à l'époque.
Défaut, évidemment.
Alors, il n'y a que les anciens qui vont me comprendre, mais... C'était Marcel Leclerc, le président, et il y avait Scoblar, Magnusson, et on attendait les joueurs sur le boulevard Michelet à la sortie du stade. À l'époque, il y avait pas les escaliers, il y avait des grilles, et les mecs, ils sortaient, et ils allaient prendre leur bagnole qui était au parking en face, et les mecs, ils sortaient, tu leur parlais, ils te serraient la main, ils discutaient trois minutes.
C'est relationnel.
On était, après, on les a jamais insultés, on les a pas, tu vois.
En vérité, c'est ça qui manque, c'est la relation entre le joueur et les supporters.
Ah.
il faudrait oui, que mais... le club fasse un effort, même, bon, même, mais... même pas les jours de match. Oui. Au Vélodrome, un micro, ils sont au milieu, ils sont là, et c'est bien. C'est
allez, comme... je suis d'accord, mais on est passé à une époque révolue, malheureusement.
Non, mais on peut revenir en arrière.
Non,
mais...
non, on peut pas revenir en arrière.
Si,
comment veux-tu
tu peux
que...
revenir. Tu peux ouvrir le stade Vélodrome pour les supporters et dire, voilà, les joueurs, ils vous parlent, on répond, on fait question-réponse, on peut le faire.
Oui, mais ce qu'il faut pas faire, c'est ce qu'on fait souvent. Les mecs, ils viennent rendre des comptes, ils sont comme des petits gamins, ils se font insulter par une con qui a, une qui a un bigophone.
Non, mais moi, je pars toujours, je pars toujours du principe, le dialogue, il faut dialoguer.
Mais le dialogue, il est tranquille, totalement au calme, non, mais sans témoin, parce que quand il y a des témoins, il y en a... Moi, je le vois, hein, je suis au virage sud, hein. Quand il y a des témoins, il y en a, ils se croient obligés de faire de la surenchère. Et le mec lui dit oh, mouiller le maillot,
à la
connard,
limite,
machin,
tu sélectionnes 200 pas... supporters.
Oui. Donc même, tu fais venir les responsables d'assos. Si
un mec comme toi, Patrick, tu vas au stade, tu écoutes quand même le joueur, tu peux dialoguer avec lui.
Mais moi,
On l'insulte pas, on dialogue. Contact humain, il n'y en a plus.
Les rares fois où on a parlé avec les joueurs, les mecs sont sympas en général.
Ben oui.
Mais moi, une anecdote, 20 secondes. Je connaissais un joueur, un ancien de l'OM, Maxime Lopez, pour ne pas le nommer. Le mec qui fait ses courses avec sa copine.
Voilà, c'est beau.
Grande surface. Il y a un mec qui vient, il met un coup d'épaule à la nana, il la dégage et il fait le selfie. Oui. Ni je te demande si tu es d'accord, voilà.
Non, là,
et
tu...
aujourd'hui, on n'est plus
à l'époque.
À l'époque où même quand le mec n'avait pas été bon, ben on lui parlait pas parce qu'il n'avait pas été bon.
Je suis d'accord avec toi.
C'est aujourd'hui, on est dans une malheureusement. Moi, je parle avec des copains, on te dit les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, c'est 2% des gens.
Oui.
Les supporters, je connais, je suis au stand, je parle aux mecs, je connais les gens, enfin, j'en connais quelques-uns. Tu parles tranquillement, tu discutes, et les mecs, ils sont malheureux, ils sont humiliés par les résultats, ils sont tristes. Il se pose des questions quand il dit... Moi, j'en connais qui me disent « Je ne mets plus l'équipe, je ne lis plus l'équipe, je ne mets plus RMC pour ne pas entendre les conneries. »
Mais ça, c'est le travail de la direction de faire ça. Voilà.
Mais le problème, c'est que...
Même pour les enfants,
C'est que quand tu les mets en foule, tu as des réactions qui
pas
bonnes.
Justement,
voilà.
c'est
tu as connu le stade gratuit, moins de 12.
Oui, j'ai connu ça. J'en ai même profité.
Voilà, mais moi aussi, Julien. Ouais. Mais Patrick, c'est beau, c'est de l'humain, il y a du contact. Oui. Le mec, tu peux pas lui en vouloir, s'il mouille le maillot, il a perdu.
Oui, il a
le mec, il va s'excuser, il va. Mais là, actuellement, qu'est-ce qu'on a? On a des mecs, bon, ça va, il joue bien. Pour moi, Greenwood, c'est un excellent joueur, mais il est en dents de scie. J'ai l'impression qu'il y a des matchs, il est pas trop là. Mais c'est le meilleur joueur de l'OM, pour l'instant.
Tout simplement.
C'est un seul joueur de grande classe internationale.
Voilà, et sûrement qu'au mois de juin, on le perd.
Et il y a des fortes chances. Avec ses histoires, il y a de fortes chances.
Et ce ne sera pas le seul.
Voilà, après le problème...
Le problème que
des fois, les mecs ne comprennent pas, c'est que même aussi fort que soit le joueur, même au-delà de Greenwood, qui est un bon joueur, qui est un joueur de classe internationale, s'il est seul, il ne peut rien faire.
Ben voilà. Seul, tu fais rien.
Voilà, il fait rien.
C'est le collectif.
D'ailleurs, des fois, ce qu'on reproche
collectif.
À Greenwood, c'est de jouer seul. Mais quand tu regardes, quand il joue seul, que tu regardes les matchs, moi, ça m'est arrivé de regarder un match après, tu le vois au stade, et puis après, tu le re-regardes. C'est sur le site, tu as des matchs en replay, là. Tu vois que le mec, il a essayé de jouer à plusieurs, puis ça n'a pas marché, les ballons ne sont pas revenus, les mecs n'ont pas fait le bon appel, alors il y va seul.
Tout simplement.
Voilà, c'est des choses qui arrivent fréquemment. Et
malheureusement,
comme quand je dis, la défense, ce n'est pas forcément la défense, c'est qu'elle est mal protégée. Quand les mecs, ils arrivent, j'ai le match de Liverpool, les mecs, ils arrivent en vague, sans arrêt, ils reviennent en contre, toi, tu essaies d'attaquer pour marquer, et eux, ils envoient des contres. Tu n'en prends que 3, c'est un miracle.
J'en reviens au collectif. La défense, c'est une chose. Après, il y a les milieux de terrain.
Les milieux qui coupent, les défenseurs qui reviennent.
Voilà,
voilà.
Les attaquants qui ont un rôle défensif également.
Et pour vous, Longoria, là, c'est quoi son chemin, là? Son chemin.
Eh ben, déjà, il a régressé au niveau de son statut de président, apparemment.
Est-ce qu'on va vers un départ
prochainement? Voilà.
J'espère pas.
Ben non, ça serait idiot.
Parce que, alors, moi, je le dis, mais gentiment, je soumets à nos auditeurs la réflexion. J'étais au stand, tu vois les banderoles, McCourt, Longoria, cassez-vous.
Ben oui.
Mais McCourt, à la fin de l'année, là, au mois de juin, avant que l'OM passe à la DNCG. Alors, si j'en crois l'équipe, le déficit serait de 37 millions. Donc, le mec, il va virer 37 millions pour que tu sois à zéro, que tu ne sois pas interdit de recrutement.
Est-ce qu'on peut penser que si on est
qualifié... On se cotisera pour...
Est-ce qu'on peut penser, si on est qualifié en Champions League, que McCourt vende le club?
Mais McCourt, s'il pouvait le vendre, il aurait, à mon avis, déjà vendu.
Je pense aussi.
McCourt, quand il avait les Dodgers de Los Angeles en baseball, dès qu'il a eu une grosse proposition, il s'est gavé, d'ailleurs, il les a vendus.
Je tiens qu'il n'a pas eu trop de résultats avec les Dodgers.
Non, avec les Dodgers, c'est différent, il était en plein divorce.
Quand tu regardes, par rapport à ce qui a été dit de manière mensongère par certains sur les réseaux sociaux, les Saoudiens qui se battaient pour acheter l'OM...
J'y crois pas.
Si l'Arabie Saoudite, elle était venue, qu'ils avaient mis 600 millions sur la table, il aurait vendu, mais il leur offrait le stylo, en plus, je veux dire, tu vois. Non, le mec, il n'a pas. Parce que c'est un club qui coûte cher, c'est des budgets. Lui, il a... Alors, si j'en crois les chiffres, hein, l'équipe RMC, il aurait claqué 650 millions
à
l'OM.
Ouais,
tous les ans, depuis qu'il est arrivé, le mec, il remet 30, 40, 50 millions pour combler les dettes.
Et qu'il va rajouter la...
Voilà, et il te met 50 millions pour le mercato, 60 millions. Mais...
Il n'a pas intérêt d'acheter le stade, McCourt.
Mais il ne peut pas.
Il ne peut pas le vendre, il n'est pas à vendre.
Il n'est pas à vendre, la mairie ne veut pas. Il est estimé à 600 millions.
Il ne peut pas trouver un partenaire.
Mais il y a déjà des partenaires avec Marseille, justement, pour la location du stade.
Dans les grands clubs, il y a des partenaires.
Moi, je pensais que le rapprochement avec CGA, CGM, c'était un peu ça, c'est-à-dire un partenaire minoritaire qui va t'aider. Mais le problème, là où il faut que les supporters réfléchissent, pourquoi Saadé ne rachète pas l'OM? Parce que s'il rachète l'OM, il a ses locaux à la Tour Méditerranée, à la Joliette. Il a la manif de Vannes tous les jours, mais les ronds connards.
Oui, là, ça va être problématique.
Il n'est pas fou, il ne se mettra jamais. Oui. Quand tu penses qu'à Rennes, les mecs qui disent à Pino, mets les ronds. Oh, Pino, il les tient à bout de bras, il aura filé des ronds.
Patrick, j'ai l'impression qu'on va tourner en rond. On est sur un rond-point, on tourne en rond.
Non, mais le truc, c'est qu'il faut finir la saison. Donc, comme tu l'as dit...
On tournera toujours en rond, dans la mesure où on a un financier qui s'offre son chéquier à chaque terme de saison. Parce que là, il va falloir justement mettre encore de l'argent et une gestion après qui est faite par une présidente déléguée.
Voilà, le problème que tu as, c'est que tu n'as plus les droits télé. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, tu avais 80, 100 millions.
C'est un problème avec la Ligue 1 Plus.
Tu n'as plus les droits télé. Et tu n'es pas prêt d'en avoir parce que Nasser, il ne veut pas que tu aies les droits
télé. Je crois qu'ils sont en train de...
McCourt et Nasser sont en bisbille avec la Ligue.
Le problème, c'est que tu n'as plus... Donc, si tu veux combler le déficit, 30 ou 40 millions, qui n'est pas énorme, c'est le mec qui met la main à la poche avant que tu passes devant la DNCG. Et si tu veux recruter, il faut qu'il mette 50-100. Benatia, il te dit « on n'a pas eu assez de ronds », il t'a quand même mis 80 sur la table.
Donc, mais c'est pour ça que je te parle d'un partenariat.
Mais après...
Autrement, seul McCourt, et ça ne sortira jamais.
Après, le problème, si tu veux, quand tu regardes aujourd'hui au niveau européen, si tu lèves 2-3 géants, les mecs, c'est des... Comme tu avais à Lyon avec l'escroc, Textor, comme tu as même en Italie, le Milan et tout, ce sont des grosses multinationales américaines qui sont là pour faire du fric. C'est Chelsea, quoi.
Tu prends l'exemple de la Juve, il y a plusieurs partenaires au sein de la Juve.
Oui, mais...
C'est pour ça qu'ils arrivent à avoir un budget de 600-700 millions et ils n'ont pas de résultats.
Il faut que ce soit rentable pour les investisseurs.
Mais la Juve, ils étaient bons quand c'était Fiat qui commandait et qu'ils n'avaient qu'un seul patron, Agnelli, maintenant, le problème, c'est que les prix sont devenus tellement délirants. Je regardais Foot Mercato ce matin sur mon téléphone. Tu vois des joueurs, je regardais le joueur.
Différence, le club de la Juve, ils ont racheté leur club.
Ils ont leur stade.
Et Lyon, c'est pareil.
Mais
ça leur permet une gestion totalement différente.
Ola, c'était un président de grande qualité.
Précurseur dans son domaine.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la priorité pour moi, c'est de sauver la saison. Il faudrait essayer d'être en Ligue des Champions. Et sachant que la quatrième place, tu ouvres un barrage, mais le barrage, tu n'es pas obligé.
Là, on le saura, je pense, à domicile contre Lyon.
Comme si quelques minutes, justement.
Si on revient, et la coupe, ne serait-ce que pour donner un trophée, que ça fait depuis 2012, tu n'as rien gagné. Voilà. Si tu arrives à faire ça, tu sauves l'équipe. Il n'est pas dit, si tu es en Ligue des Champions, que tu as gagné la coupe, que tu perds Greenwood. Il n'est pas dit que certains joueurs ne veuillent pas rester et venir. C'est possible. Ça veut dire qu'il faut restructurer, c'est-à-dire retrouver un entraîneur sur du long terme, avoir un directeur sportif qui fait le taf. Moi, je veux bien qu'il reste Benatia, mais si tout le monde sait qu'il s'en va, il ne va pas recruter pour l'année prochaine.
Il est compliqué de parler de long terme quand on parle de l'Olympique de Marseille.
Si Habib Bey, dans le pire des cas, il a des bons résultats, il reste, il va pouvoir reconstruire. Si Benatia s'en va, il y aura peut-être quelqu'un qui va le remplacer.
Voilà, mais le problème, c'est que ce qu'il faut, c'est te structurer, et que pour te structurer, il faut du calme. Il faut pas
Tu l'auras jamais à Marseille, le calme. Jamais.
Il aura quelques matchs à disputer. Il faut se remobiliser pour finir cette saison.
Moi, ce que je disais, on me parlait avec les collègues, je disais, sauf ce qui peut l'être, parce que moi, je vois, c'est bien joli de critiquer, de demander casse-toi, machin, mais à un moment donné, les joueurs, s'ils voient ça, les joueurs, ils s'en foutent.
Non, mais,
les joueurs, ils appellent l'agent.
Je vais me répéter, c'est le terrain qui prime.
Oui, c'est le terrain.
Le reste, ils s'en foutent, Longoria, ils s'en foutent. C'est le terrain. Il n'y a pas les résultats sur le terrain. Ils regardent que ça. Le mec, il fait 800 km, il habite à la Canebière, il va voir le match, il ne se régale pas.
D'accord. Mais même... bah alors, il faut que les joueurs jouent au football, c'est ça.
Oui,
c'est eux qui jouent au football sur le terrain. On est bien d'accord. Donc après les résultats.
Ce qui s'est passé,
c'est très.
Mais c'est ça qui est grave.
Moi, je te disais, je comprends pas pourquoi. C'est pourquoi tu as basculé sur le match de Bruges et après, Paris FC.
C'est
Paris,
là où tu bascules,
tu
t'effondres
et l'équipe, elle s'effondre.
Il y a un problème physique.
Peut-être, mais c'est surtout dans la tête.
Et mental.
D'ailleurs, Pancho le dit, c'est dans la tête.
À Bruges, ils sont 3-0, ils disent on les voit, on se calme. Ils ne s'attendent pas que Benfica marque à la 95e.
C'est donc dans la tête. C'est pas physique, c'est dans la tête.
Le problème, c'est que tu ne dois pas.
Tu serais qualifié.
C'est là d'ailleurs que les gens sont un peu stupides. On se serait qualifié parce qu'il n'y aurait pas ce but du gardien à la 5e minute. On dirait les gens, ils ne parleraient pas. Les problèmes seraient les mêmes. Mais tu n'aurais pas la même crise.
Ça, tout à fait,
parce que
on serait peut-être aller au Parc des Princes pour un match de barrage de Ligue des Champions, je blague.
Oui, on rencontrerait le Real Madrid en barrage.
Demain ou ce soir.
Voilà.
Mais bon, moi, je vais revenir là-dessus. On a un problème physique. Trois matchs, c'est trop pour les joueurs. Ils s'en sortent pas.
Ils n'en jouent que deux. Heureusement qu'à la Coupe de France.
Là, ils sont tombés à deux matchs par semaine.
Tu vois, je suis. C'est pas faux ce que tu dis, Alain, mais à ce compte-là, moi, ça me renvoie à certains discours. Ils changent trop d'équipe. Oui. Et que si tu fais trois matchs par semaine, tu peux pas faire trois fois 90 minutes.
Non, mais là, moi, je suis pas trop d'accord.
Voilà,
de Zerbi, il connaît son groupe. Il sait qui c'est qui a des problèmes, pas de problème. Il essaye de trouver la bonne composition. Il n'y est pas arrivé. Mais moi, de Zerbi, là-dessus.
Oui, il ne faut pas le critiquer.
Il me dérange pas.
Il a fait tourner.
Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il a les blessés. Il y a les mecs, il a mal aux dents. Non, et il fait pour le mieux.
Mais ça, c'est évident. C'est le rôle de l'entraîneur. Mais d'ailleurs.
Maintenant, moi, je lui reproche d'être parti. Voilà, moi, je te le dis personnellement. Un capitaine, il faut que le bateau.
Oui, il a été poussé au départ, bien évidemment. Il ne pouvait pas faire autrement.
Pour moi, il aurait dû rester jusqu'à la fin de la saison. Voilà.
Voilà, mais après, est-ce que ça aurait marché? Voilà.
Et peut-être qu'il va revenir, puisque Benatia est revenu.
Et peut-être qu'il a fait ça.
Un coup de bigophone. Bon. Roberto revient.
Non, je pense pas.
Non, là
sûrement
je n'y crois
pas.
Attention, on est en 2026, tout peut se passer sur les
lignes. Oui, mais quand même. Mais enfin, il y a quand même un truc, c'est que à un moment donné, on ne peut pas demander que les mecs qui cavalent, ils fassent le pressing 90 minutes et ne pas accepter qu'on fasse des rotations.
Important, justement, ces rotations et ces changements.
Moi, il y en a un que je regrette d'entraîneur, c'est Tudor. Il n'a pas eu les joueurs qu'il voulait. Oui. Parce que je pense que Tudor.
Et puis
il aurait fait le taf.
Tu te régalais au stade.
Il demandait un remplaçant à Sanchez, il n'a pas eu, parce qu'il fallait quelqu'un qui pressing comme lui, qui faisait le pressing.
Oui, mais après, le problème, c'est que c'est le reproche que je fais à Benatia, tu es obligé de tenir compte de ton budget.
Oui.
Moi, quand je prévois mes vacances, je rêverai d'aller en Australie.
Bien sûr. Voilà,
un mois en Australie, voir la grande barrière de corail. On est
dans le show business, il faut d'abord, c'est un problème de gestion financière.
Là déjà, on prévoit les vacances à Brest. Hein.
Donc du coup, je pense qu'on en dira beaucoup plus très prochainement, c'est-à-dire la semaine prochaine. Parce que l'actualité est toujours
avec
en marche.
Un retour de Thierry de Monaco.
Oui, il nous montrera la villa qu'il a achetée sur les hauteurs de la Principauté.
Un grand supporter de Monaco.
Apparemment, je ne sais plus.
Il a un copain qui lui permet d'avoir des places.
Oui, c'est voilà. Bien. Et je pense qu'il est pour Paris.
Voilà. Ça, c'est méchant.
Oh là là. Ben foot.
Voilà.
Allez l'OM.
Voilà. Je ne dirai pas plus.
Voilà, on va saluer nos auditrices et nos auditeurs.
On remercie tout le monde sur les antennes de Fréquence Mistral Marseille.
Et on vous dit, on espère à la semaine prochaine.
Merci Franck et merci Patrick.
Voilà. Et qu'on aura des trucs plus sympas à discuter.
De tout cœur.
Et qu'on aura un entraîneur.
À bientôt.
À bientôt.
À bientôt. Merci.